Bonne année avec Sounou Assurance, qui a le profil pour vous accompagner pendant ces 365 jours de santé, de réussite, de joie et d'assurance. Suivez Priorité Santé. Sounou Assurance, notre métier, l'assurance.
Priorité Santé. Caroline Paré.
Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui dans Priorité Santé, nous parlons de la méningite ou plutôt des méningites au pluriel. Mal de tête, raideur du cou, vomissement, photophobie, la gravité de ces inflammations des méninges et de la moelle épinière est étroitement liée à leurs agents pathogènes, virus, bactéries, parasites, champignons. Il existe des méningites très différentes qui appellent des traitements tout aussi variables. Une fois la cause identifiée, la réponse ira d'une simple observation pour certaines méningites virales à une prise en charge en urgence absolue pour des méningites bactériennes susceptibles de laisser de graves séquelles et en cas d'absence de traitement d'avoir dans une importante proportion une issue fatale. Méningites donc au pluriel pour lesquelles la prévention repose sur la vaccination. L'une des formes les plus graves de l'infection, c'est la méningite à méningocoque. Elle est plus fréquente dans la zone rebaptisée ceinture de la méningite qui s'étend du Sénégal à l'ouest, à l'Éthiopie, à l'est. Zone où d'après l'Organisation Mondiale de la Santé, 30 000 cas sont encore signalé chaque année, c'était les chiffres de l'année dernière, mais on est loin de la plus grande épidémie de méningite, celle de 1996. Elle avait touché sur le continent africain 250 000 personnes et tué 25 000 habitants de cette ceinture de la méningite. Symptômes, prise en charge, prévention des différentes formes de méningite. Pour en parler avec nous en studio, docteur Nicolas Vignier, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes infectiologue au centre hospitalier Sud Île-de-France à Melun en région parisienne. Méningite à méningocoque qui figure sur la liste en France des maladies à déclaration obligatoire. Anne-Sophie Barret, épidémiologiste à Santé publique France, nous expliquera tout à l'heure pourquoi. Et puis on retrouvera en ligne du Burkina Faso le docteur Apolline Sondo Ouédraogo, chef de service des maladies infectieuses et tropicales au CHU Yael Gado Ouédraogo d'Ouagadougou. En fin d'émission, on va retrouver la chronique sport du docteur Jean-Marc Sen, médecin du sport, médecin de l'équipe de France de judo. Et bien sûr, notre numéro pour nous joindre, vos témoignages, vos questions au 33 1 84 22 75 75.
Priorité santé sur RFI.
Docteur Nicolas Vignon, on va parler surtout aujourd'hui des formes aiguës de la méningite. Mm-hmm. Il existe des formes chroniques de cette maladie, mais c'est beaucoup plus rare.
Oui, en effet, c'est vraiment des maladies particulières et rares et qui sont en général pas dues à des causes infectieuses. Hein. C'est parfois des maladies auto-immunes ou ça peut être lié au cancer ou à certains médicaments. Donc c'est vraiment quelque chose d'un peu à part. Hein. Ce qui est important, c'est les méningites aiguës dues à des micro-organismes infectieux, le plus souvent les bactéries, les virus ou les parasites. Et donc c'est ça qui nous intéresse aujourd'hui, je pense.
Alors vous êtes infectiologue également, vous avez une consultation voyageur. Justement, il y a les deux. Cette infection, elle concerne aussi bien l'ensemble de la planète, mais on peut dire aussi certaines régions du globe qui sont plus que d'autres concernées.
Voilà, donc les méningites sont une maladie rare en France, hein, donc on en voit quand même à peu près 500 cas tous les ans. C'est pour ça qu'on vaccine les nourrissons contre la méningite C. Mais par contre, on peut la voir un peu plus fréquemment chez les voyageurs qui se rendent dans la ceinture de la méningite, qui est une zone à risque qui est située en Afrique subsaharienne, au niveau subsahélien, donc du Sénégal jusqu'à l'Éthiopie. Et donc c'est vrai que c'est un sujet en médecine des voyages de vacciner les voyageurs qui se rendent à destination de cette zone-là contre la méningite à méningocoque.
Alors pour de nombreuses infections, on parle de populations, on va dire, plus fragiles. Est-ce qu'il y a aussi pour la méningite des populations plus concernées, par exemple à certains âges de la vie?
Oui, donc en fait la méningite touche inégalement les personnes, soit en fonction de leur état de santé. Donc quand on a une immunodépression, on est plus à risque de faire une méningite, mais aussi en fonction de l'âge, et en particulier les tout petits, les nourrissons, comme ils ont un système immunitaire qui est immature, ils sont plus à risque de développer une méningite, tout comme certains adolescents, puis certaines personnes âgées. Hein. Donc c'est vraiment les trois classes d'âge où on observe le plus de méningite.
Alors il y a aussi, si on parle justement du continent africain, certaines certaines pathologies qui rendent plus sensibles à la méningite, par exemple les personnes atteintes de drépanocytose. Et puis oui. Tout à l'heure justement vous parliez de ce déficit immunitaire, ça concerne donc les personnes séropositives, également d'autres infections. Par exemple, quand on est tuberculeux, on a plus de risques de contracter une méningite?
Alors, c'est pas qu'on a plus de risques de contracter une méningite quand on a la tuberculose, c'est que la tuberculose elle-même peut attaquer les méninges et entraîner une méningite. La tuberculose, le plus souvent, ça touche le poumon, mais en fait, ça peut toucher tous les organes du corps et on voit des méningites tuberculeuses, y compris en France, régulièrement. Ça fait partie des causes rares de méningite.
Ça veut dire que quand on dit méningite, on parle de l'atteinte méningée, cerveau, moelle épinière, mais qu'en fait, pas mal de bactéries, pas mal de microbes, pour essayer de décrire les choses simplement, peuvent migrer jusqu'à cette zone du cerveau et déclencher une méningite, c'est ça?
Voilà, exactement. Donc en fait, il y a plusieurs causes infectieuses de méningite, c'est ce qui rend un peu compliqué le sujet. Donc ce qu'on appelle méningite, c'est vraiment la présentation clinique d'une personne qui arrive avec une infection du liquide qui entoure le cerveau et qui se présente avec une forte fièvre, mal à la tête, la lumière qui dérange, qu'on appelle la photophobie, le bruit qui dérange, parfois des vomissements, parfois mal au ventre. Donc ça, c'est le tableau clinique. Et après, on va rechercher la cause. Et donc parmi les causes, il y a de nombreuses causes infectieuses. Il y a des causes virales qui sont en général bénignes. Donc ça, on en voit beaucoup en France, des méningites virales qui vont guérir toutes seules.
Ça veut dire que quand quelqu'un arrive aux urgences, il a ses symptômes. Au début, l'équipe médicale ne sait pas de quelle méningite il s'agit.
Exactement. Donc c'est pour ça qu'on va faire en urgence une ponction lombaire, donc qui consiste à introduire une aiguille dans le bas du dos pour recueillir le liquide céphalorachidien. Et en observant au laboratoire ce liquide, on va pouvoir différencier les causes de méningite. Et si c'est pas une cause virale bénigne, si c'est plutôt une cause bactérienne sévère, là ça va entraîner un traitement par antibiotique en urgence, sans attendre.
Alors ça veut dire que le premier traitement il va être large et après on va rechercher la nature précise de la bactérie pour ciblé, justement?
Oui. Alors, donc, il y a plusieurs tableaux cliniques, mais dans les tableaux les plus graves, notamment les méningites à méningocoque, où on peut évoquer le diagnostic dès, par exemple, quand un camion du SAMU va au domicile du patient, il y a certains signes qui peuvent nous faire évoquer cette infection grave.
Par exemple?
Mal à la tête, raideur de nuque avec la fièvre, puis aussi le purpura, dont on parlera peut-être, qui est aussi une forme particulière de la méningite à méningocoque, qui atteint aussi la peau, avec des taches sur la peau violacées, voire nécrotiques, qui ne s'effacent pas quand on appuie dessus.
Ça ressemble à des petits bleus, petites taches partout, surtout peut-être les jambes, les membres supérieurs.
Alors
ou
ça
c'est
peut être,
sur l'ensemble
ça
du
peut
corps
être partout sur
le
corps.
Torse aussi.
Voilà, tout à fait, on peut en
avoir
partout. En général, il y en a plusieurs et elles ont tendance à s'agrandir très rapidement dans un contexte de fièvre, mal à la tête. Donc ça, c'est une urgence absolue. Donc quand un médecin urgentiste SAMU arrive dans un domicile où il voit ça, en fait, il va administrer l'antibiotique tout de suite, sans même faire la ponction lombaire, sans attendre, parce que c'est une urgence thérapeutique. Et après, on ramène le patient à l'hôpital, et là, on va confirmer le diagnostic avec la ponction lombaire.
Alors, il y a la question de repérer la maladie, bien l'identifier, d'autres questions qui sont justement sur la transmission des différents agents pathogènes. Et on a la question sur notre page Facebook que nous adresse un auditeur de Guinée, il s'appelle Moussa. Alors, je cite sa question, « Est-ce qu'en dormant avec une personne atteinte de méningite, on peut être infecté ?» La réponse est...
Alors oui, donc on a dit il y a plusieurs causes de méningite, mais celle dont on va le plus parler c'est le méningocoque, donc c'est dû à une bactérie, et en fait cette bactérie avant de nous rendre malade, souvent on l'a au fond de la gorge, on a ce qu'on appelle un portage pharyngé, donc on la porte mais ça nous rend pas malade, donc il y a plus de gens qui la portent que de personnes qui sont malades, et donc comme on est porteur de cette bactérie au niveau pharyngé, on peut la transmettre en parlant à quelqu'un, en l'embrassant, en dormant avec quelqu'un, donc faut vraiment un contact rapproché en face à face et prolongé, donc typiquement le conjoint, c'est vraiment la personne à risque. Et cette personne, du coup, peut se retrouver à son tour porteur au niveau pharyngé. Et là, la bactérie, dans certains cas, peut passer dans le sang, puis ensuite atteindre les méninges, c'est-à-dire l'enveloppe qui entoure le cerveau, et entraîner la méningite. Donc, c'est pas toutes les personnes porteurs qui vont faire la méningite, c'est seulement celles qui sont porteurs d'une bactérie agressive et qui ont des facteurs de risque comme l'âge jeune, l'immunodépression qu'on évoquait tout à l'heure.
Alors on parle de cette contagion justement, est-ce que c'est vrai pour tous les agents pathogènes? Est-ce qu'on est contagieux quand on a par exemple une méningite fongique? Ce sont donc des champignons?
Alors, non. Les méningites à champignons ne sont pas contagieuses.
On les attrape comment?
En fait, on est souvent porteurs nous-mêmes des champignons, et donc c'est souvent des personnes immunodéprimées qui font les infections à champignons, qui sont vraiment des maladies rares, donc je pense que c'est pas le plus intéressant. Les méningites virales, c'est saisonnier, donc on l'attrape comme on peut attraper la grippe ou la rhinopharyngite. Le méningocoque, on vient le dire, c'est on est en contact avec une personne atteinte. Le pneumocoque, on peut aussi être porteur au niveau pharyngé. Donc les modes de transmission peuvent différer un petit peu en fonction des causes, hein, mais vraiment, le méningocoque, c'est le contact rapproché, prolongé. Donc, si on croise quelqu'un dans le métro ou au travail qui est porteur, on n'a pas de risque de l'attraper. Il faut vraiment vivre avec, l'embrasser, parler de manière prolongée avec la personne. Voilà.
On vous reste avec nous. On va justement continuer de parler précisément de ces méningites à méningocoque, des maladies qui sont placées sous surveillance particulière.
Priorité santé sur RFI.
On parle même d'infection invasive à méningocoque à déclaration obligatoire. Et on en parle justement avec vous, Anne-Sophie Barret, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes épidémiologiste à Santé publique France, chargée de la surveillance, hein, précisément de cette maladie. Maladie à déclaration obligatoire, hein, quand on parle de cette expression générale, qu'est-ce que ça veut dire précisément?
Alors, c'est effectivement une maladie qui doit être déclarée le plus rapidement possible par les professionnels de santé, donc les médecins, les biologistes qui prennent en charge les cas à l'hôpital. Ce signalement doit être fait aux agences régionales de santé. Et l'objectif immédiat, c'est de mettre en place des mesures de prévention autour des cas. Donc d'éviter la transmission du méningocoque et surtout d'éviter la survenue de nouveaux cas dans l'entourage direct des malades. Et donc on va proposer, recommander un antibiotique en prévention pour les personnes qui ont été en contact proche et direct avec le malade dans les 10 jours qui ont précédé son infection.
C'est pour ça que, par exemple, dans l'actualité, on peut entendre même des médias lancer des appels. Si vous étiez, par exemple, dans tel bar ou dans telle discothèque où une personne a contracté, a développé cette méningite à méningocoque, faites-vous connaître pour prendre un traitement préventif.
Oui, alors en général, l'agence régionale de santé va pouvoir identifier précisément toutes les personnes qui ont été en contact proche avec le malade, hein, donc soit en interrogeant si la personne peut répondre aux questions, soit en interrogeant la famille. Et dans certains cas, effectivement, il peut y avoir une médiatisation de ces épisodes, même si, en général, quand il y a un seul cas, les mesures de gestion sont gérées directement par l'agence régionale de santé en prenant contact avec les personnes concernées.
Alors,
ça concerne vraiment les personnes qui ont été exposées directement aux sécrétions respiratoires des malades.
Donc ça permet de prévenir d'autres cas, et bien évidemment ça vous permet aussi de recenser ces cas, Anne-Sophie Barret. Justement, combien de cas d'infection invasive à méningocoque sont déclarés, peut-être que vous avez peut-être pas les chiffres tout complets pour 2018, mais 2017 par exemple?
Alors oui, donc c'est comme vous le disiez, c'est un deuxième objectif, hein, de ce signalement. Donc c'est de contribuer à la surveillance épidémiologique de cette maladie, et donc ce qui nous permet de compter les cas et de suivre les tendances temporelles, les évolutions annuelles de la maladie. En 2017, 546 cas ont été déclarés en France, et donc en général, on a entre 500 et 600 cas par an en France. On en a un petit peu moins en 2018, donc il y a des variations annuelles en fonction du type de méningocoque également.
En tout cas, vous ne constatez pas une évolution significative du nombre de cas?
Alors, les évolutions sont très différentes en fonction du type de la bactérie. Suivant le type, on observe soit une stabilité, soit des évolutions annuelles correspondent en fait à l'évolution cyclique naturelle de la transmission du méningocoque. Et donc on a aussi des variations saisonnières avec plus de cas qui sont rapportés pendant la saison hivernale, notamment entre janvier et mars.
Et ce suivi, cette déclaration peut aussi avoir comme avantage, et là c'est très important, de surveiller par exemple les infections résistantes aux antibiotiques.
Alors tout à fait, donc il y en a très peu, hein, qui sont décrites par rapport aux antibiotiques qui sont préconisés en première intention. Mais cette cette déclaration obligatoire est couplée à l'envoi de prélèvements biologiques au Centre national de référence des méningocoques, qui est situé à l'Institut Pasteur, et qui va effectivement procéder à l'analyse de la résistance aux antibiotiques parmi les souches qui sont isolées.
Merci beaucoup, merci pour toutes ces précisions Anne-Sophie Barret. Je rappelle que vous êtes épidémiologiste à Santé publique France. On vous retrouve en studio, docteur Nicolas Vignier, infectiologue au centre hospitalier Île-de-France Sud. On le disait, maladie relativement rare, il vous arrive, vous, de prendre en charge ces méningites à méningocoque? C'est quelque chose de fréquent, par exemple?
Alors oui, on en voit, mais ça reste des situations rares. Donc bah après, nous, on est un peu biaisés parce que comme on travaille dans les services de maladies infectieuses, bah du coup, c'est des patients qui arrivent dans nos services. Mais beaucoup de mes confrères qui sont pas spécialisés en maladies infectieuses ne voient pas de méningite à méningocoque. C'est surtout les médecins urgentistes, les médecins de réanimation, les médecins de maladies infectieuses. Et donc, on va en voir, quand on en voit une dans l'année, c'est souvent de cet ordre-là. Hein, donc ça reste une maladie peu fréquente. Après, on voit d'autres causes de méningite. Les méningites virales, on en voit plus, hein, surtout en saison. Et puis, on peut voir des méningites aussi chez les personnes immunodéprimées, atteintes de cancer, âgées, etc., qui sont dues à d'autres causes, et notamment le pneumocoque, dont on n'a pas beaucoup parlé là, mais qui est quand même une cause fréquente de méningite chez les personnes âgées ou chez des personnes qui peuvent avoir une rupture due à un traumatisme de la barrière entre la gorge et le cerveau. Donc, si par exemple, on a eu un accident de voiture avec une fracture de la base du crâne, des bactéries comme le pneumocoque peuvent passer directement des voies respiratoires jusqu'au méninge et entraîner une méningite à pneumocoque. Donc ça, c'est les choses qu'on voit.
Méningite à pneumocoque qui appelle une réponse urgente.
Donc c'est pareil, c'est antibiothérapie en urgence, tout à fait.
Et à chaque fois, c'est justement ces méningites bactériennes, elles conduisent à une hospitalisation systématique, docteur Vignier?
Ah oui, toujours. On ne prend pas le risque de ne pas hospitaliser une méningite, même si elle arrive dans un tableau qui n'est pas trop inquiétant. Parce qu'on sait que c'est des patients qui peuvent s'aggraver très vite, hein, en quelques minutes ou quelques heures. Donc l'hospitalisation est systématique. On se pose même systématiquement la question de l'hospitalisation en réanimation dans les premières heures pour pas prendre de risque d'avoir une surveillance insuffisante. Et après, on les reprend en maladie infectieuse le lendemain.
Alors le cas extrême que vous nous citiez tout à l'heure, ce purpura fulminans, docteur Nicolas Vignier, ces petites ecchymoses, à ne pas confondre avec une autre forme de purpura. Et c'est pour ça que la ponction lombaire va être déterminante. Est-ce que quand il y a suspicion de purpura fulminans, on met tout de suite ces personnes sous antibiotiques ou d'abord on va chercher si ça ne peut D'accord. pas être un purpura viral?
Alors, donc le purpura, je rappelle, hein, c'est une tache violacée sur la peau qui, quand on appuie dessus, ne disparaît pas. C'est pas pareil, on a tous des taches rouges violacées sur la peau, quand on appuie dessus, elles disparaissent, donc ça, c'est pas du purpura, c'est quand on appuie dessus, ça disparaît pas. Il y a plein de causes de purpura. Là, celui dont on parle, c'est un purpura dans un contexte infectieux, c'est-à-dire il y a de la fièvre. Donc un purpura sans fièvre, c'est pas une méningite, hein. Donc ça,
c'est pas la peine non plus.
C'est pas la peine de courir aux urgences pour tous ceux qui ont un purpura. Notamment le purpura, on en voit chez beaucoup de personnes qui prennent des anticoagulants ou qui ont des réseaux vasculaires qui marchent pas très bien, etc. Donc il y a beaucoup de gens qui ont un purpura mais qui ont pas de fièvre. Le problème, c'est quand il y a une fièvre brutale et qu'en même temps il y a un purpura qui apparaît, en particulier chez le jeune enfant. Donc là, on va craindre le purpura fulminans. Et vous parliez de purpura virale. En fait, le purpura virale, ça n'existe pas dans la méningite virale. Il y a jamais de purpura. La seule cause de méningite qui donne un purpura, c'est le méningocoque. Donc c'est très grave. Et donc quand on a ce tableau-là, fièvre aiguë, purpura avec les signes méningés, on va traiter par antibiotique tout de suite sans même attendre la ponction lombaire. On ne va pas perdre le temps de la confirmation, d'amener le patient aux urgences, de confirmer, ça va être des heures. Parce qu'on sait que si on prend ce temps-là, ça va prendre par exemple 4 heures. Et on sait qu'en 4 heures, on peut avoir une mortalité plus élevée que si on avait fait l'antibiotique tout de suite.
On risque une infection généralisée, c'est ça?
Oui. Et puis on risque vraiment le décès, hein. Donc ça, c'est démontré scientifiquement qu'il y a une surmortalité quand il y a un retard à l'antibiothérapie qui est dû au fait de ramener la personne aux urgences, de faire une PL, un scanner, etc.
Alors, on a parlé des traitements antibiothérapie, c'est quand la maladie est là, mais bien sûr, il y a la prévention. Mm-hmm. La prévention, c'est bien sûr la réponse vaccinale. aujourd'hui, la plupart des méningites bactériennes font partie, on va dire, du lot des vaccinations obligatoires.
Tout à fait. Donc, on a beaucoup progressé sur la prévention des méningites grâce aux vaccins. Donc là, parmi les causes de méningite, on dispose de vaccins actuellement contre Haemophilus influenzae, qui était une cause grave de méningite chez l'enfant, qui a quasiment disparu depuis qu'on vaccine les enfants contre cette maladie, le pneumocoque et le méningocoque. Donc, ces trois maladies, elles font partie du calendrier vaccinal. Elles font d'ailleurs partie des vaccins obligatoires chez les jeunes enfants de moins de 2 ans, qu'on faisait déjà avant l'obligation, mais qui ont maintenant sont devenus obligatoires. Donc tous nos enfants sont systématiquement vaccinés et protégés contre ces maladies. Alors pour le méningocoque, on vaccine uniquement contre le méningocoque C, sachant qu'il y a d'autres causes de méningocoque qui existent en France, en particulier le B, le Y et le W, mais qui sont rares, mais qui existent quand même, contre lesquels on n'est pas protégé par ce vaccin qu'on va faire chez l'enfant. Et à quel moment on fait ces vaccins? Bah, pour l'hémophilus, le pneumocoque, dès l'âge de 2 mois chez les nourrissons, et après il y a les rappels. Et puis pour le méningocoque, on va faire dès l'âge de 5 mois chez le nourrisson, avec un rappel à 1 an. Et pour les voyageurs, on va faire en plus un vaccin qui protège contre 4 méningites, A, C, Y, W, pour les voyageurs à destination de la ceinture de la méningite et pour les personnes qui vont faire le pèlerinage à la Mecque, parce qu'il y avait eu il y a quelques années une épidémie de méningite à la Mecque.
Alors, ces vaccins sont donc désormais obligatoires pour les bébés, mais une récente étude de l'INSERM de septembre dernier montre qu'en France, eh bien, un quart des séquelles graves liées aux méningites de l'enfant aurait été évité par la stricte application du calendrier vaccinal. Ça veut dire que justement, pour protéger la santé de ces enfants, c'est absolument indispensable de les faire vacciner.
Oui. En France, on a un gros problème de défiance vaccinale. Je pense que vous en avez déjà parlé plusieurs fois ici. Et donc, parmi les vaccins qui étaient mal appliqués, mal faits par les parents à leurs enfants, il y avait le méningocoque, justement. Autant pneumocoque et hémophilus, la couverture vaccinale est plutôt bonne en France parce que c'est regroupé dans le vaccin hexavalent qu'on fait à l'âge de 2 mois. Autant méningocoque, c'était une injection en plus. Souvent, les parents refusaient de le faire. Donc là, c'est devenu obligatoire depuis le 1er janvier, donc on a bon espoir que ça résolve le problème. Mais vu qu'on avait une faible couverture vaccinale, bah forcément, les enfants non vaccinés n'étaient pas protégés. Et on constate qu'on aurait pu prévenir des complications grâce à cette vaccination si les parents avaient vacciné leurs enfants.
Donc c'est très important, vacciner les enfants contre ces risques de méningite. Et on va tout de suite, docteur Nicolas Vignier, donner la parole à un auditeur de Priorité Santé.
Priorité Santé sur RFI.
Alors nous voulions donner la parole à Ini Wolli, mais hélas on vient de perdre la ligne avec le Sénégal, avec la ville de Fatick. Donc je vais me faire sa porte-parole en quelque sorte, puisque Ini Wolli tout à l'heure a confié à Priorité Santé que son enfant avait contracté la méningite à l'âge de 7 mois. Cet enfant est aujourd'hui âgé de 4 ans, mais ce petit garçon a des séquelles, la surdité. Il n'a pas appris à parler, il ne sait pas parler. Le médecin a prescrit un scanner pour une implantation cochléaire, mais justement, Ini Wolli dit qu'il n'a pas l'argent, il n'a pas les moyens financiers pour payer cet implant permettre à cet enfant d'entendre. Et justement, cette question, c'est sur, bien sûr, les séquelles. Est-ce qu'on peut soigner les séquelles? C'est ce qu'on disait tout à l'heure. Quand un enfant contracte tôt une méningite bactérienne, il peut y avoir de graves séquelles. Mmh. Et parmi ces séquelles, justement, ces problèmes auditifs.
Alors, tout à fait. Donc, comme on l'avait dit, la méningite, c'est une maladie grave, déjà parce qu'elle peut entraîner la mort. On l'a dit tout à l'heure, dans à peu près 10% des cas chez l'enfant, mais jusqu'à 20% chez l'adulte. Mais parmi ceux qui survivent, il y a aussi une fréquence très importante de séquelles neurologiques. Et la plus fréquente, c'est la surdité. Pourquoi? Parce qu'en fait, le nerf auditif, il passe tout proche des méninges. Et s'il y a une inflammation des méninges, il peut être touché et il peut être abîmé par cette méningite. Et donc, la surdité, il y a à peu près 30% des personnes qui ont fait une méningite en France qui gardent des séquelles, et la première séquelle, c'est la surdité. Donc ce qui est arrivé à son enfant, à Iniweli, c'est fréquent, malheureusement. Et donc là, on est plus de 3 ans après la méningite, donc l'infection, elle a été traitée, guérie, donc il n'y a plus d'infection présente. Donc ça, c'est trop tard pour prévenir la surdité en mettant les antibiotiques. Donc maintenant, la prise en charge, c'est celle du handicap, donc c'est la rééducation. Donc il faut voir avec un ORL, il y a en effet des solutions qui peuvent exister avec parfois certaines chirurgies comme les implants cochléaires, mais ça nécessite un avis spécialisé en ORL qui va dire si c'est possible ou pas.
Et puis le coût est très important.
Et le coût est très important et ça pose problème souvent en Afrique où c'est pas toujours couvert par l'assurance maladie, contrairement à la France. Et donc, est-ce qu'on peut soigner les séquelles? Ça dépend des séquelles, mais quand on arrive, nous on voit parfois des enfants qui arrivent d'Afrique ici, qui ont des séquelles, ça date de 5 ans en arrière. On peut pas faire des miracles sur ce qui s'est passé avant. Donc après, ça va être la rééducation, prendre en charge la surdité. Puis chez l'enfant, c'est très important. Si on peut résoudre le problème, tant mieux. Si on peut pas, il faut aussi qu'il y ait une intégration scolaire avec cette surdité, notamment
le langage des signes, par exemple.
L'apprentissage du langage des signes, pour qu'il puisse y avoir un développement cognitif et une intégration dans la société. Hein, donc c'est toutes ces questions-là qui se posent.
Avec justement aussi l'occasion, à la faveur de cette question d'Iniwoli, de pointer l'importance de ces séquelles, mortalité des méningites à méningocoque, mortalité importante, surtout quand on n'a pas forcément un système de santé à la hauteur, et puis donc des séquelles qui peuvent être multiples. Vous avez évoqué justement la surdité. Quelles autres séquelles on relève justement après des formes plus virulentes de méningite?
Donc les séquelles, elles peuvent être diverses et variées, mais globalement c'est des séquelles neurologiques, donc c'est dû à une atteinte du système nerveux central. Donc ça peut être des troubles cognitifs, du mal à réfléchir, une lenteur à réfléchir, ça peut être des troubles du comportement, ça peut être des difficultés à avoir une station debout, une instabilité, une difficulté à s'exprimer. Donc ça peut être un certain nombre de signes neurologiques qui peuvent être très variables d'une personne à l'autre en fonction de quelle partie du cerveau ont pu être atteint et n'ont pas guéri suite à antibiothérapie. Mais tout ça, si on prend en charge rapidement et qu'on fait une antibiothérapie précoce, vraiment on prévient les complications. Et encore mieux, si on est vacciné et qu'on ne fait pas la méningite du tout, on est encore moins à risque. Donc c'est pour ça que l'importance, c'est la prise en charge en urgence.
Antibiothérapie sur quelle durée en général?
Alors ça dépend de la bactérie, mais ça peut être court, quelques jours jusqu'à 15 jours en fonction des bactéries.
Et après on suit l'évolution du patient, on va voir sur son si la fièvre tombe, etc. Ou on refait une ponction lombaire?
Alors, on n'est pas toujours obligé de refaire une ponction lombaire, parce qu'en général, en fait, comme les personnes avec de la fièvre, mal à la tête, etc., si quand on commence l'antibiothérapie, la fièvre disparaît, et les douleurs régressent, on considère qu'il y a une réponse à l'antibiotique. Les antibiotiques marchent très bien, il y a peu d'échecs cliniques, donc on ne va pas contrôler systématiquement la ponction lombaire. Par contre, si la personne continue à avoir de la fièvre ou a une aggravation clinique, par exemple, devient avec des troubles de la conscience, là, on va refaire la ponction lombaire pour ne pas passer à côté d'une ou d'une cause autre à côté de laquelle on serait passé.
Et une fois que la personne est sortie de l'hôpital, il y a une surveillance particulière qui est imposée, docteur Nicolas Vignier?
Alors, c'est là où on a du travail à faire, parce que justement jusque-là, on n'était pas très bon là-dessus, c'est-à-dire que voilà, on guérissait les gens de leur infection, et puis après les médecins hospitaliers font pas le suivi des patients, ils disaient allez voir votre médecin traitant, mais les personnes le faisaient pas vraiment, et on s'est rendu compte qu'il y a des personnes qui avaient quand même des séquelles, notamment la surdité, qui n'avaient pas été identifiées. Puis parfois ça peut être des surdités partielles, hein, donc c'est pas total, donc les gens sont gênés mais on n'en a pas parlé à un médecin, et du coup on n'a pas de dépisté pris en charge. Donc là maintenant il y a des nouvelles recommandations qu'a fait la Société des infectiologues de langue française cette année, qui recommande vraiment de faire un suivi systématique et protocolisé sous la responsabilité du médecin hospitalier pour dépister ces séquelles, donc de revoir systématiquement les personnes à distance pour refaire un examen neurologique complet, tester l'audition et orienter si jamais il y a des problématiques vers les spécialistes que sont les ORL.
Merci docteur Nicolas Vignier, vous restez avec nous. On va maintenant rejoindre le Burkina Faso.
Priorité santé sur RFI.
Pour retrouver docteur Apolline Sondo-Ouedraogo, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes chef de service des maladies infectieuses et tropicales au CHU Algodo Ouedraogo de Ouagadougou. Alors le Burkina, on connaît notre carte de l'Afrique, c'est situé directement dans ce que l'on appelle la ceinture de la méningite. Docteur Sondo Ouedraogo, est-ce que les cas sont fréquents dans votre pays?
Merci. Les cas sont fréquents au Burkina Faso, mais depuis la vaccination, la campagne de vaccination en 2010 contre le Neisseria meningitis A, les cas ont nettement diminué. Donc, la prévalence des cas pour 2018 était de 1,2 pour 10 000 habitants.
Ça fait combien rapporté à la population totale du Burkina Faso, Dr Sondo Ouedraogo?
Alors, rapporté à la population totale, ça fait environ 100 cas chaque année.
Et est-ce que cette maladie a au Burkina un caractère saisonnier ou non? Ou est-ce que c'est sur l'ensemble de l'année qu'il y a justement ces cas de méningite bactérienne?
Alors, pour la méningite bactérienne, nous recevons les cas toute l'année. Mais à partir du mois de novembre, on observe une augmentation du nombre de cas qui va se prolonger jusqu'en mars-avril. Donc, surtout pendant la saison sèche, on a une augmentation du nombre de cas. Sinon, de façon saisonnière, les cas sont notifiés toute l'année.
Et comment est-ce qu'on explique justement, on peut dire, ce pic épidémique au moment de la saison sèche?
Alors, ce pic épidémique s'explique par l'arbatin, donc qui est un vent sec et qui charge de nombreux micro-organismes, qui va entraîner un assèchement des muqueuses et favoriser des infections.
Docteur Apolline Sondo Ouedraogo, est-ce que les symptômes sont connus par la plupart des Burkinabés? Est-ce qu'ils sont connus par les familles, par les mamans, par le grand public?
Oui, de façon générale, pour ce qui concerne la méningite, elle est connue par la population. D'autant plus que chaque année, il y a une sensibilisation qui est faite en début de saison épidémique. Donc la méningite est connue par la population parce qu'elle est cyclique. Donc elle survient chaque année. Et en début de saison épidémique, une sensibilisation est faite à la population. D'abord un plaidoyer qui est fait au niveau des différentes régions pour sensibiliser les autorités administratives et politiques et religieuses, au niveau communautaire également. Et donc ce plaidoyer est réalisé et au niveau opérationnel, c'est-à-dire des formations sanitaires et des campagnes de sensibilisation sont effectuées et des supports. Donc, des sensibilisations sont élaborées, des dépliants, des affiches, donc qui sont élaborées au niveau central et distribuées au niveau des formations sanitaires. Il y a également l'appui des agents de santé à base communautaire qui permet la sensibilisation des populations. Donc, une sensibilisation de proximité est faite chaque année.
Un travail de terrain. Du côté du calendrier vaccinal, Dr Apolline Sondo Ouedraogo, comment ça se passe? Les enfants sont vaccinés à quel âge et pour quel type de méningite en particulier?
Alors, le Burkina Faso a introduit le vaccin conjugué donc dans le programme élargi de vaccination. Donc, l'enfant a participé entre 15 mois et 18 mois est vacciné. Et comme on sait que cette vaccination a une durée donc, de 10 ans, donc cela permet d'assurer une vaccination adéquate, une prévention de méningite, surtout à Neisseria meningitis, surtout contre le A.
Tout à l'heure, on discutait, on parlait du calendrier vaccinal en France avec des injections qui commencent dès 2 mois. Ce que vous nous dites, c'est qu'au Burkina, c'est un petit peu plus tard.
Oui. Avant, c'était surtout le tétravalent, donc qui permettait de prévenir la méningite contre le sérotype du Neisseria meningitis, qui se faisait à partir de 2 ans. Et maintenant, avec le vaccin conjugué, à partir d'un an, on peut réaliser la vaccination chez l'enfant.
Vous restez avec nous, docteur Apolline Sondo Ouedraogo, parce qu'on a une question d'un auditeur qui nous appelle du Cameroun, et je pense que vous allez pouvoir y répondre. Cet auditeur, c'est Anissé, il est à Yaoundé. Bonjour Anissé.
Bonjour Caroline, bonjour à toute l'équipe de l'Université Santé.
Alors j'espère qu'on va bien entendre votre question, donc du Cameroun. Est-ce que vous pouvez nous parler du cas de votre enfant et poser votre question?
Il y a un petit garçon qui aura bientôt 1 an.
Mm-hmm.
Oui, et
Ma question est de savoir, d'après les informations que nous avons pu avoir dans la nation, ils sont aidés, et que le vaccin ne s'administre qu'à partir de l'âge de 2 ans. Donc j'aimerais savoir comment faire pour protéger son enfant avant d'atteindre l'âge de la vaccination.
Donc cette question rejoint ce que je demandais tout à l'heure à vous, docteur Apolline Sondou-Ouedraogo. À Nice, un bébé d'un an, la vaccination au Cameroun, c'est à 2 ans. Entre les deux, comment protéger ce bébé?
Alors, l'enfant a 1 an. J'ai bien compris.
Exactement.
Et la vaccination, c'est à partir de 2 ans au Cameroun.
Tout à fait.
Alors, pour protéger l'enfant, surtout contre le méningocoque A, donc le vaccin conjugué, donc anti-méningocoque A, qui se fait à partir de 1 an, on peut immuniser l'enfant.
Mais on imagine que si le calendrier vaccinal est à 2 ans, c'est peut-être aussi une question tout simplement d'accès à cette vaccination, de gratuité. Pourquoi ne pas anticiper cette injection pour protéger plus tôt le bébé?
À partir de 2 ans, donc c'est le vaccin polysaccharidique contre les différents sérotypes. Et donc ce vaccin ne peut pas se faire avant 2 ans.
Parce qu'il y a...
Et par contre, le vaccin conjugué permet donc de réaliser cette vaccination avant.
Parce que, docteur Apolline Sondou-Ouedraogo, certaines protections sont inopérantes avant un certain âge, c'est ça? L'organisme du bébé est immature et donc ça ne permet pas, on va dire, au vaccin d'imprimer?
Exactement. Donc l'organisme ne pourra pas réagir. Donc il pourra produire des anticorps pour protéger l'enfant.
Merci beaucoup, merci infiniment pour toutes ces explications. Docteur Apolline Sondou-Ouedraogo, je rappelle que vous êtes chef de service des maladies infectieuses et tropicales au CHU Yalgado Ouedraogo de Ouagadougou.
RFI à Ouagadougou, 94 FM.
Docteur Nicolas Vignier, est-ce que l'âge des patients, tout à l'heure on parlait de cet âge des patients en termes de vulnérabilité, maintenant en termes, une fois que la maladie est là, est-ce qu'il y a justement des malades qui sont plus fragiles en fonction de leur âge?
Oui, enfin, les nouveau-nés sont quand même particulièrement vulnérables aux maladies infectieuses graves. Donc c'est et aussi le problème, c'est que le diagnostic est moins facilement fait chez les nouveau-nés parce que le tableau clinique peut être plus frustre. C'est-à-dire que ça peut être une fièvre avec un enfant qui boit moins bien, qui tète moins bien, qui est un petit peu irritable. On n'a pas tout le nouveau-né va pas savoir nous dire qu'il a mal à la tête. La raideur de nuque peut manquer, le purpura aussi. Donc tout ça, ça peut entraîner des retards de prise en charge qui augmentent la gravité. Et puis après, pour les personnes immunodéprimées, bah elles sont particulièrement fragiles, parce qu'elles ont déjà un état de santé altéré. Et donc, si une méningite survient sur ce terrain-là, elle est plus souvent grave. Donc, tout ça, ça invite à une prise en charge précoce, à être particulièrement vigilant dans les classes d'âge à risque et chez les personnes immunodéprimées, pour pas passer à côté du diagnostic d'une méningite.
Justement, pour les générations qui n'ont pas été vaccinées, je pense par exemple aux personnes âgées, est-ce qu'il y a des campagnes de vaccination ciblées, justement, pour atteindre toute cette génération oubliée, parce que là, les bébés qui arrivent, eux, seront protégés, mais même certains jeunes, 30, 40, et puis des adultes, et les personnes âgées, elles ne sont pas protégées.
Alors oui, tout à fait, c'est prévu par le calendrier vaccinal. Donc comme on l'a dit tout à l'heure, les classes d'âge les plus à risque pour le méningocoque, c'est les tout-petits et les adolescents. Donc en fait, il est recommandé de faire un rattrapage de ce vaccin chez tous les enfants et les jeunes âgés de moins de 25 ans qui n'auraient pas bénéficié de ce vaccin dans l'enfance, soit parce que né trop tôt, soit parce que les parents n'ont pas souhaité faire ou que le médecin a oublié. Donc si vous avez un adolescent qui a 16 ans, qui n'a pas le méningite C sur son calendrier vaccinal, sur son carnet, il faut le faire, il faut aller voir le médecin traitant pour le faire. Faut pas hésiter. Par contre, entre 25 ans et 65 ans, on va pas faire parce qu'on considère que le risque est très faible et qu'il n'y a pas de bénéfice à vacciner l'ensemble de la population. Et pour ce qui est des personnes âgées de plus de 65 ans, on propose la vaccination pas contre le méningocoque qui est rare à cet âge-là, mais contre le pneumocoque qui lui est plus fréquent et qui, comme je l'ai dit tout à l'heure, est une cause non rare de méningite bactérienne grave chez les personnes âgées. Donc là, il est recommandé de de faire ce vaccin, le pneumocoque 13 valence, chez les personnes âgées et chez toutes les personnes qui ont des maladies chroniques qui peuvent augmenter ce risque, comme par exemple diabète, insuffisance cardiaque, infection par le virus du VIH, drépanocytose dont vous parliez tout à l'heure, etc.
Alors, vous traitez en particulier de médecine du voyage. On pourrait aussi parler de médecine du retour et de médecine aussi des vacances pour les personnes d'origine étrangère, d'origine africaine en particulier, qui rentrent au pays pour les vacances. Là, il y a vraiment un message particulier à leur faire passer. Avant de rentrer, vaccinez-vous.
Voilà. Donc là, on évoquait les vaccins vraiment recommandés pour la France. Le nourrisson, rattrapage jusqu'à 25 ans, et le pneumocoque chez les personnes âgées et les personnes ayant des comorbidités. Après, il y a les voyageurs, c'est un cas différent. La question, c'est où est-ce qu'ils partent? Et s'ils partent soit dans la ceinture de la méningite, on l'a dit, du Sénégal à l'Éthiopie, soit en Arabie Saoudite pour le pèlerinage de la Mecque, il y a une recommandation de faire le vaccin contre le méningocoque, en particulier pendant la saison sèche, c'est ce qu'expliquait le professeur Ouédraogo, c'est-à-dire de novembre à avril.
Oui, mais il faut faire attention parce qu'il y a un petit peu une interprétation qui est fausse. Quand on dit voyageur, on pense touriste, mais ce ne sont pas seulement des touristes. C'est aussi vraiment le retour au pays, c'est très important.
Évidemment, non. Toute personne qui se rend dans le pays concerné, y compris les personnes qui y sont nées, qui vivraient en France et qui rentreraient là-bas. Et puis, il y a un bénéfice à vacciner les populations locales aussi. On vient de le démontrer avec la baisse importante du cas de méningocoque depuis que l'OMS vaccine en 2010. Donc, une personne immigrée qui vit en France maintenant, qui rentre voir la famille, il faut qu'elle fasse ce vaccin. C'est très important parce qu'elle peut être exposée lors de son retour.
Alors, du côté justement de la vaccination, tout cela est gratuit quand on est enfant. Comment ça se passe quand on est dans d'autres classes d'âge?
Alors, donc le vaccin est en effet remboursé à 65% dans le cadre des recommandations et calendrier vaccinal, donc on l'a vu jusqu'à 25 ans. Par contre, dans le cadre du voyage, malheureusement, les vaccins ne sont pas pris en charge par la Sécurité sociale, que ce soit la méningite ou les autres vaccins comme la fièvre jaune, l'hépatite A. Donc c'est à la charge des personnes. Et c'est un vaccin qui coûte 30-40 euros, parfois plus, ça dépend des pharmacies, des endroits, parce que les prix sont libres et comme c'est pas remboursé par la Sécurité sociale. Et donc c'est une seule dose, c'est quand même l'avantage, il n'y a pas plusieurs doses, mais par contre, en effet, il faudra payer pour ce vaccin.
Alors, en conclusion, on va faire un retour en arrière. On a bien parlé d'urgence absolue, d'extrême urgence, donc on va rappeler les symptômes qui doivent pas faire dire, par exemple, à des parents ou à des proches, on va attendre de voir comment ça évolue, c'est peut-être une gastro, de pas confondre d'avoir une erreur de diagnostic, d'auto-diagnostic. Pour quels signes il y a suspicion de méningite, justement, à méningocoque, et il faut consulter sans tarder.
Donc, toute fièvre brutale avec des maux de tête importants, plus ou moins associés à des vomissements, mal au ventre, une nuque raide, et encore plus s'il y a un purpura. Tout ça, c'est des signes qui doivent motiver au mieux, c'est d'appeler le 15, c'est-à-dire le SAMU. Parce que comme on a dit qu'il fallait aller très vite, souvent le temps de s'organiser pour accompagner quelqu'un aux urgences, qu'il soit admis aux urgences, tout ça, ça peut être délétère. Donc si vraiment il y a un tableau très évocateur de méningite, ou si on a un doute qu'on n'est pas sûr, faut mieux appeler le SAMU. Donc c'est le 15, et là le médecin va poser des questions, comme lui il a l'habitude, il va pouvoir plus précisément évaluer si en effet on est dans ce contexte-là, et si on est dans ce contexte-là, il enverra le camion directement à domicile, et là le médecin pourra, s'il y a lieu, administrer l'antibiotique beaucoup plus vite que si on essaie de prendre un rendez-vous chez le médecin traitant, etc. Voilà. Après, s'il y a pas mal à la tête, mais que il faut pas hésiter à aller aux urgences quand il y a le moindre doute pour une méningite, pour pouvoir être évalué par un médecin qui décidera s'il faut ou pas faire la ponction lombaire, etc. Mais c'est pas toujours facile de faire la part des choses, hein, parce que fièvre et céphalée, on peut en avoir dans une grippe, dans n'importe quelle infection. Donc tout ça, c'est des signes qui sont pas spécifiques. Mais quand c'est brutal, que ça fait très mal à la tête et qu'il y a une plainte de la nuque, voire des vomissements, vraiment, faut craindre la méningite et faut mieux appeler le 15.
Merci beaucoup. Hein. Merci d'avoir répondu à l'invitation de Priorité Santé, docteur Nicolas Vignier. Je rappelle que vous êtes infectiologue au Centre Santé Île-de-France de Melun en région parisienne. Et tout de suite, notre page sport et santé, c'est en votre compagnie, docteur Jean-Marc Sen. Docteur Sen, bonjour.
Bonjour Caroline.
Vous êtes médecin du sport, médecin de l'équipe de France de judo. Jean-Marc, vous allez nous parler de la pratique sportive quand il fait chaud, hein, situation fréquente pour pas mal de nos auditeurs. Et ça nécessite justement de prendre certaines précautions. Mais cette première question, hein, pourquoi la chaleur rend-elle l'activité physique plus risquée?
Eh bien, ça pose un souci parce que quand on fait de l'activité physique, eh bien, évidemment, on a des contractions musculaires. Alors, il faut savoir quand on fait une dépense énergétique pour des contractions musculaires, pour 100% d'énergie dépensée, eh bien, les trois quarts, 75%, sont dispersés sous forme de chaleur. Et là, l'organisme, eh bien, doit conserver une température, un équilibre thermique, une température corporelle constante. Et il va donc falloir évacuer cette chaleur accidentelle. Le mode principal d'évacuation de la chaleur chez l'être humain, c'est l'évaporation. Alors, le problème, c'est quand il fait humide ou quand il fait très chaud, eh bien, la sueur s'évapore moins bien. Et là, le refroidissement du corps peut se révéler difficile, voire impossible. Le risque, c'est d'abord des crampes, hein, avec, c'est-à-dire cette contraction involontaire brutale et douloureuse. Et souvent, ça, c'est lié justement à l'état de déshydratation et à la perte de sels minéraux. Et puis, si la température corporelle continue encore à augmenter, hein, et dépasse, pourquoi pas, 40 degrés Celsius, eh bien, là, arrive le coup de chaleur. Ça, c'est une affection extrêmement grave, avec un risque de mortalité important, puisqu'il avoisine 10%.
Alors, coup de chaleur très dangereux, justement, docteur Sen. Est-ce qu'on peut le voir arriver? Est-ce qu'on peut anticiper?
Et oui, Caroline, il existe des signes avant-coureurs. Bah, justement, si on a des crampes, des étourdissements, un mal de tête, des nausées, voire quelquefois des vomissements, eh bien là, il faut se méfier. Et puis, la peau, quelquefois, est un petit peu moite, voire même, quelquefois, on a une diminution de la sudation qui apparaît alors qu'il fait très chaud. On sait qu'il y a des facteurs qui prédisposent à tout cela. Si on a une surcharge pondérale, si on n'est pas habitué à faire cet effort, si on manque d'entraînement, le manque également d'hydratation est un risque. Et puis, enfin, l'utilisation de certains médicaments comme des diurétiques ou des amphétamines expose à ce risque du coup de chaleur.
Alors aussi, comment réagir, docteur Sen? Qu'est-ce qu'on fait lorsqu'on est témoin d'un coup de chaleur, quelqu'un qui a ce malaise très violent?
Il faut interrompre immédiatement son entraînement ou son activité, évidemment pour diminuer la production de chaleur. Se mettre à l'ombre ou à un endroit frais et puis essayer de faire descendre cette température. Alors pour ça, faut pas hésiter à se dévêtir un petit peu, s'asperger d'eau ou s'humidifier, aérer vigoureusement, on prend une serviette ou un vêtement et puis on aère la personne tout simplement ou la mettre à un courant d'air frais parce que, encore une fois, c'est l'évaporation de l'eau qui va refroidir le corps. Et s'il n'y a pas d'amélioration, il faut pas hésiter à contacter les services d'urgence ou un médecin rapidement pour pouvoir apporter des soins plus importants.
Alors justement, en matière de prévention, est-ce qu'il y a des précautions à prendre pour éviter le coup de chaleur?
L'élément numéro un, c'est les prévisions météorologiques. Il y a un indice de risque qu'on peut mesurer, le WBGT, Welt Bulb Globe Temperature, qui évalue la contrainte thermique, bien sûr, que vous allez subir, qui tient compte de la température, de l'humidité et de la vitesse du vent. Et justement, en fonction des conditions, eh bien, ça va indiquer si les risques du coup de chaleur sont très importants ou pas. Par exemple, c'est important d'utiliser ça avant de lancer un marathon, par exemple, et de savoir s'il y a vraiment un risque pour les participants. Alors, quand il y a des conditions qui sont difficiles, plutôt sinon s'entraîner le matin avant que le soleil se lève, ou bien en soirée quand il fait vraiment plus frais. Il faut pas hésiter à porter des vêtements légers, amples, des couleurs plutôt claires, parce que les teintes foncées ont tendance à absorber les rayons du soleil. Porter aussi une coiffe, un chapeau ou une coiffure qui recouvre la nuque et puis éviter les routes goudronnées parce que ce sont des véritables capteurs solaires. Quand il fait très chaud, il ne faut pas chercher à performer. Il faut réduire au contraire l'intensité de son exercice. Il ne faut pas faire comme d'habitude les mêmes vitesses. Il ne faut pas attendre d'avoir soif pour boire. La soif apparaît tardivement après l'hydratation et puis il faut boire de bonnes quantités de boissons de récupération. Alors enfin, pour éviter également tout cela, on évitera certaines boissons, je pense à l'alcool, évidemment, qui est déconseillé, au café ou au thé, qui sont des boissons qui vont avoir tendance à augmenter la diurèse, c'est-à-dire le fait d'uriner et vont plutôt déshydrater. Alors, normalement, si on suit toutes ces précautions, si nos auditeurs suivent toutes ces précautions, eh bien, ils ont un maximum de chances, même en pleine chaleur, de voir leur pratique sportive rester un plaisir. Et surtout, n'oublions pas que rien ne sert de suer, il faut évaporer.
Eh bien, merci pour tous ces conseils, docteur Jean-Marc Sen, médecin du sport, médecin de l'équipe de France de judo. Et Priorité Santé touche à sa fin. Merci à toute l'équipe qui chaque jour fabrique et réalise votre émission. C'est tout ça, Maquée, Ophélie Lassène, Didier Bleu. Demain, premier jeudi du mois, vous retrouvez bien sûr le docteur Catherine Solano pour répondre à toutes vos questions avec comme thème « Comment dépasser de mauvaises expériences sexuelles ?» On attend bien sûr vos questions, vos témoignages, 33 84 22 75 75 et sur notre page Facebook. On se retrouve demain à 9h10, temps universel.
Vous avez suivi Priorité Santé avec Suno Assurance qui vous souhaite 365 jours de santé, de réussite, de joie et d'assurance. Suno Assurance, notre métier, l'assurance.